Mes chers confrères, il m'appartient maintenant de présenter très brièvement, parce qu'une vraie présentation demanderait beaucoup de temps et je ne veux pas prendre plus de temps, à Laurent Fabius, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter cette invitation. Nous parlions il y a un instant de la théorie de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. Laurent Fabius peut parler de gouvernance selon toutes les dimensions évoquées par Montesquieu. Je me permets d'énoncer très rapidement les fonctions qu'il a occupées, que chacun d'entre nous connaît naturellement. Il a été ministre de l'Industrie et de la Recherche, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. Ceci pour l'exécutif. Et j'oublie sans doute une ou deux autres fonctions très importantes qu'il a exercées. Pour le législatif, il a présidé l'Assemblée nationale. Et pour le judiciaire, je note simplement qu'il est issu du Conseil d'État, mais il est actuellement, comme nous le savons tous, président du Conseil constitutionnel. Mais j'aurais pu et j'aurais dû probablement évoquer d'abord les fonctions internationales qu'il a exercées en participant au G7, G20 et à l'ensemble des grandes réunions internationales du monde. Mais il me permettra peut-être de dire, surtout à certains égards, était le président de la COP23, qu'on a déjà évoqué ici à plusieurs reprises, mais c'est la COP23 qui a fixé les très grands objectifs de la gouvernance mondiale de l'environnement. Nous lui avons laissé, cher président, toute latitude de commenter la gouvernance sous tous les angles et dans toutes les dimensions qu'il pourrait souhaiter. Nous lui donnons maintenant la parole.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi de répondre à votre invitation sur le thème vaste de la gouvernance. Ce qu'on appelait jadis, avant la pandémie des anglicismes, l'art de gouverner. Mes observations seront tirées de mon expérience personnelle qui m'a amené, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, à diriger le gouvernement, présider l'Assemblée nationale, puis le Conseil constitutionnel, donc à mesurer les méthodes, les capacités et les limites de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. J'essaierai d'en tirer quelques enseignements. Depuis le temps où, jeune auditeur au Conseil d'État, je fréquentais les locaux du Palais Royal, jusqu'à occuper désormais les salons adjacents du même palais, où siègent ce qu'on appelle aimablement les sages. Bref, le chemin qui m'a conduit, en une sorte de résumé de ma vie professionnelle, à parcourir 50 mètres en 50 ans. Une remarque d'ensemble pour commencer. Longtemps, qui dirigeait le gouvernement, donc l'État, dominait également la société. Cela n'est plus vrai. Des forces nouvelles sont apparues qui sont devenues décisives. Groupes économiques, technologiques, financiers, médiatiques, organisations et réseaux divers, pour ne citer que ces entités. Même si la souveraineté nationale continue d'être notre clé de voûte, elle est désormais profondément immergée dans l'international. Quant au marché, plus ou moins régulé, il impose généralement ses lois. Gouvernement et gouvernance ne coïncident donc plus, ce qui pose un problème particulièrement ressenti dans un pays comme le nôtre, où l'État a construit la nation et où on attend beaucoup de lui. La situation est assez différente dans les régimes autocratiques, où le gouvernement tente à contrôler les individus et la société, avec les problèmes redoutables et parfois effroyables que cela peut entraîner. Dans ce contexte, quelle gouvernance ? Mesdames et messieurs, en gardant à l'esprit mon devoir de réserve, quelques remarques d'abord sur la gouvernance française, en commençant par ses rapports avec notre Constitution. Une des caractéristiques historiques du texte fondateur de la Ve République, c'est sa stabilité. Sa longévité, déjà 65 ans, dépasse celle de tous ses prédécesseurs. Dans un monde marqué par l'instabilité et l'incertitude, la stabilité constitue, je le crois, un atout, à condition qu'elle ne soit pas une fixité. Or, 24 révisions ont déjà eu lieu depuis 1958, et il semble qu'une 25e se profile. La pratique de notre Constitution elle-même a été tantôt présidentialiste, voire hyper-présidentialiste, tantôt, rarement à vrai dire, plutôt parlementariste. Ce que je qualifierais donc de stabilité adaptative a permis à notre pays de faire face, y compris dans des périodes critiques. L'indépendance algérienne, mai 68, l'alternance de 1981, les cohabitations, les crises économiques, financières, sécuritaires. Au total, ce cadre constitutionnel, qui étymologiquement nous tient ensemble, me semble avoir été et être un atout pour gouverner, dès lors qu'il est concilié avec les exigences d'une démocratie vivante et moderne. C'est sur ce plan-là que des évolutions sont souhaitées par beaucoup. J'ai moi-même à plusieurs reprises évoqué un malaise démocratique français. D'autres ont employé des termes nettement moins polissés. La crise des Gilets jaunes de 2018, les émeutes de 2023, la maigrissime participation aux élections, le discrédit des partis et de la classe politique, les violences multiformes et multiples sont quelques symptômes récents de ce malaise que nos institutions et leurs pratiques n'ont pas su résorber. En réalité, mesdames et messieurs, le malaise est double. Le premier concerne ce qu'on appelle la base et montre que nos concitoyens ont de moins en moins confiance dans les institutions et dans les gouvernants. La notion même de représentation est mise en cause. Lors de l'épisode des Gilets jaunes, cette base refusait de désigner quelque représentant que ce soit pour discuter avec les pouvoirs publics, et sitôt qu'une personnalité émergeait, elle était désavouée. Inversement, le souhait d'une expression directe, voire d'une décision directe par les citoyens eux-mêmes, appuyée parfois sur de nouvelles technologies, est de plus en plus fréquent, même si cette voie peut poser de délicats problèmes, notamment pour trancher des questions complexes ou qui appellent des compromis. À ce malaise de base s'ajoute un malaise des dirigeants et des élus. Même si le sens de l'intérêt général et du devoir demeure élevé, l'évocation politique, incontestablement, s'étiole. Et, sans être désobligeant, la qualité elle-même est parfois en question. Les raisons sont multiples, qui vont du piètre traitement, dans tous les sens du terme, réservé aux élus, jusqu'à des règles les concernant établies sans grande nuance. Depuis 2020, pas moins de 40 maires chaque mois ont démissionné de leurs fonctions. Autre donnée significative, peu remarquée, le fait récent et nouveau qu'au sommet, on ait pu éprouver des difficultés à recruter des ministres voire un ou une première ministre. De tout temps, accéder au gouvernement était considéré comme un honneur. Premier ministre, un grand honneur. Combien y ont aspiré, attendant vainement derrière leur téléphone. Et voilà que le risque de la chaise vide tend à remplacer le trop-plein. C'est une vraie perte de chance pour notre pays. En réalité, ces deux aspects du malaise démocratique, base et sommet, se répondent. C'est parce que les dirigeants et élus traditionnels ne sont pas jugés assez efficaces ou dignes qu'on ne leur fait plus guère confiance. D'où les votes bronca et la montée des extrêmes. Symétriquement, c'est notamment parce que les citoyens, on ne peut même plus dire les électeurs, ne leur font plus assez confiance, que les potentiels élus cessent d'être attirés par ces fonctions. La gouvernance française en est évidemment affectée. Cette gouvernance ne dépend pas seulement des dispositions de rang constitutionnel. Pour autant, celles-ci exercent une influence notoire et font l'objet de plusieurs interrogations majeures. Quid des pouvoirs considérables du président de la République, de la façon de les exercer et de la durée de son mandat? Quelle place pour le Premier ministre et le gouvernement? Le Parlement joue-t-il un rôle satisfaisant? Les Français sont-ils suffisamment associés aux décisions qui les concernent? La recherche d'un meilleur équilibre entre pouvoirs apparaît essentielle, de même qu'une plus réelle association aux responsabilités et aux décisions des élus locaux, des partenaires sociaux et des citoyens eux-mêmes. Ce qui apparaît en tout cas, c'est que les problèmes à traiter sont devenus si complexes et nombreux qu'il semble improbable que les décisions d'une seule personne, quelles que soient ses qualités, puissent conduire à une gouvernance optimale. Parmi les remèdes évoqués, revient souvent l'idée d'une utilisation plus large du référendum. Un sondage récent indiquait que 84% des Français le souhaitent. Notre Constitution en fixe les modalités, qu'il s'agisse du référendum simple ou du référendum d'initiative partagée, le RIP. Sans transformer mon propos en cours de droit constitutionnel, ni trancher des questions dont je pourrais avoir à connaître fonctionnellement, trois brèves remarques. D'abord, si on veut garder au système français son caractère de démocratie représentative, il apparaît logique de conserver à la fois l'obligation d'une approbation parlementaire pour toute révision constitutionnelle et la possibilité de recourir au référendum. Ensuite, s'agissant du RIP, la fixation d'un pourcentage minimum de signataires moins élevé qu'aujourd'hui rendrait évidemment cette procédure plus accessible. En n'oubliant cependant jamais, sur ce sujet complexe, les mots du grand Victor Hugo, « Souvent la foule trahit le peuple ». Enfin, dans un esprit de bonne gouvernance, ce qui doit en tout cas être évité, c'est qu'il s'agisse d'un référendum national ou local, d'y procéder pour ensuite contredire son résultat. À titre indicatif, je voudrais citer quatre pistes qui, sans alourdir nos finances publiques déjà souffrantes, ni exiger l'impossible, pourraient contribuer à améliorer notre gouvernance, une sorte de carré du changement possible. Premier côté du carré, une vraie décentralisation. J'entends l'objection, mais, cher Laurent Fabius, tous les gouvernements l'ont évoqué, elle est le pont aux ânes des discours dominicaux. Sans doute. Mais il s'agirait, cette fois, de la réaliser. Ayant été moi-même élu local pendant plus de 30 ans, je la crois devenue indispensable. Il s'agit pour l'État central de se dessaisir réellement de certaines compétences et les transférer aux élus locaux, ainsi que, corollaire décisif, le pouvoir financier correspondant. Une décentralisation effective améliorerait l'efficacité de la gouvernance, les responsabilités seraient plus claires et l'État n'en souffrirait pas, au contraire, dès lors qu'elle serait accompagnée d'une vraie déconcentration, en clair, d'un renforcement parallèle de l'autorité des préfets. Deuxième côté du carré, la simplification. Là aussi, c'est un passage obligé des propos dominicaux et qui ne débouche généralement pas, sinon sur une complexité accrue. Pourquoi ne pas commencer par le commencement, à savoir l'accumulation et l'enchevêtrement des lois et des règlements. La plupart des lois nouvelles servent en effet à corriger les malfaçons des anciennes. L'adage nécessaire « nul n'est censé ignorer la loi » devient une fiction aimable. En théorie pourtant, tout devrait être clair. La Ve République a innové en distinguant le domaine de la loi défini par l'article 34 de notre Constitution et le domaine réglementaire à l'article 37. Mais la pratique dément souvent la théorie. Le législateur, redoutant que l'administration déforme ses intentions, multiplie les textes et les détails qui rendent les lois bavardes. L'administration fait souvent preuve d'autonomie dans l'application ou la non-application des lois. Quant aux juges, ils se voient taxés de gouvernement des juges lorsqu'il remplit seulement son office. Ne serait-il pas utile de remettre de l'ordre dans ce mauvais ping-pong où chacun perd son crédit et son temps, cependant que l'efficacité de la gouvernance française s'en trouve affaiblie. Le troisième côté du carré, c'est ce qu'on peut appeler une égalité des chances véritable, pas l'égalité des conditions, en général illusoire et même parfois dangereuse. Je vise une égalité réelle des chances, qui signifierait que nos enfants et petits-enfants, quel que soit leur milieu culturel et social, bénéficieraient de chances à peu près égales à l'école, au collège, au lycée et pour leurs premiers pas professionnels. Cela se pose évidemment sans tomber dans je ne sais quel wokisme des efforts différenciés. Il n'est pas besoin de mobiliser des colonnes de chiffres, au demeurant accablant, pour constater que nous en sommes extrêmement loin. Enfin, en analysant le chronogramme de nombreuses décisions gouvernementales, je constate, c'est le quatrième côté du carré, qu'un temps relativement long est généralement consacré à leur élaboration, un temps faible, voire nul, à leur évaluation et à leur suivi, alors que c'est une phase essentielle pour une gouvernance efficace. Ce constat n'est sans doute pas sans lien avec le fait que la France, qui détient le quasi-record mondial des prélèvements sociaux et fiscaux, n'affiche pas la même performance pour l'efficacité des services publics ainsi financés. Sur tous ces points, l'observation critique de notre gouvernance montre l'ampleur et peut-être le chemin de certains changements à opérer. Mesdames, Messieurs, quand il s'agit des décisions dans le domaine des relations internationales, on comprend que les mécanismes nationaux soient particulièrement concentrés. C'est le cas en France, où le chef de l'État, chef des armées, dispose en cette matière de pouvoirs considérables. Ce n'est pas cet aspect qui pose problème. En revanche, lorsqu'il s'agit de la gouvernance du domaine international en général, les difficultés sont amplifiées en raison de données diverses. Alors que le monde a plus que jamais besoin de règles transnationales et de coopération pour affronter les grandes et souvent nouvelles questions qui nous assaillent, les obstacles sont de plus en plus nombreux et profonds, cependant que les institutions internationales sont devenues souvent inadaptées, j'y reviendrai. Construites au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et comme toujours par les vainqueurs, elles traduisent les rapports de force politiques, économiques et démographiques de l'époque. Or, nous sommes 8 décennies plus tard. Ces rapports ont beaucoup évolué, les institutions pas assez. D'autant plus que se sont développées des entités non étatiques, parfois plus puissantes que des États, et qui ne sont pas ou mal régulées mondialement. Plus généralement, on constate une mise en cause des règles internationales et leur application en temps de paix comme en temps de guerre, Les exemples récents abondent. Tout se passe comme si, au principe traditionnel et essentiel, pacta sunt servanda, succédait de plus en plus souvent un autre et redoutable principe, pacta sunt delenda. Je m'arrête un instant sur la dimension européenne de la gouvernance. C'est un fait que les données, les orientations, les décisions européennes exercent une influence de plus en plus importante sur notre gouvernance. L'extension envisagée du nombre des États membres de l'Union fait peser une incertitude encore accrue sur les formes et l'efficacité de la future gouvernance européenne et française. Cela, au moment même où la brutalisation des rapports internationaux et la fragmentation du monde rendent la solidarité et l'identité européenne encore plus indispensables. Quelle formule alors choisir ? Davantage de fédéralisme ? Davantage de souveraineté nationale ? Des cercles différents selon les États, selon la nature des compétences exercées ? C'est un très grand débat. La formule qui sera en définitive retenue exercera une puissante empreinte sur la gouvernance de l'Europe et sur celle de notre pays pour les années qui viennent. Or, je suis frappé par la montée, et pas seulement en France, des contestations au nom de l'exigence d'une meilleure gouvernance de ce qu'on appelle l'ordre juridique européen. Celui-ci est critiqué non seulement par les formations traditionnellement hostiles à l'Europe, mais bien au-delà. Il faut admettre que l'échelon européen peut entrer parfois dans un luxe excessif de prescriptions détaillées et que l'ordre juridique européen ne doit évidemment ni ignorer, ni a fortiori chercher à effacer les souverainetés nationales. Dans le cas de la France, notre Constitution, ainsi que les traités que nous avons ratifiés, prévoient expressément que les normes européennes régulièrement adoptées sont supérieures aux dispositions nationales, avec comme souplesse le recours à l'utile notion juridique d'identité nationale constitutionnelle, c'est-à-dire à des dispositions nationales qui, sans être contraires aux règles européennes, reconnaissent une spécificité française. Plutôt que de nous engager dans une bataille donquichottesque et délétère contre la législation européenne, il paraît souhaitable, tout en étant ferme sur nos compétences nationales et en favorisant le dialogue entre instances nationales et européennes, y compris le dialogue des juges, de garder à l'esprit deux données, me semble-t-il, de bon sens. Primo, il ne peut exister d'union européenne efficace sans un ordre juridique européen. Le droit de chaque État membre ne peut donc pas être à la carte. Secondo, ne perdons pas de vue dans l'échauffement des débats la stabilité, la crédibilité et l'influence qu'apporte à nos nations la dimension européenne. Qui peut croire, par exemple, que sans une assise européenne commune, notre économie et notre monnaie présenteraient la même stabilité? Bref, davantage de souplesse et de dialogue entre l'Union et les États membres, assurément. Moins de cohérence, non. Je reviens à la gouvernance mondiale. Le constat de base, sans lequel on ne peut guère comprendre les enjeux actuels, est, je l'ai dit, que les institutions internationales censées organiser cette gouvernance sont devenues largement inadaptées. Pas toutes, heureusement. La justice internationale, peu à peu, se développe. La finance internationale est soumise, malgré les insuffisances, à certaines règles. Le commerce international aussi. Des secteurs spécifiques, comme l'aviation civile, également. Mais dans beaucoup de domaines, constatons qu'on reste encore loin du compte. En particulier pour ce qui constitue la première responsabilité des gouvernants, la paix et la sécurité. À l'évidence, nous sommes entrés dans une époque géostratégique nouvelle. La bipolarisation Chine-États-Unis, l'émergence notamment de l'Inde, de l'Afrique, du Brésil, les technologies nouvelles, les tensions de toutes sortes contribuent à rendre souvent inadaptés et impuissants les modes traditionnels de gouvernance internationale. Dans le même temps, Les violations du droit international se multiplient, pratiquées généralement par ceux qui, au plan national, ignorent également l'état de droit. La guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'attaque terroriste d'Israël par le Hamas et les modalités de la réplique israélienne sur Gaza en sont d'actuels et tragiques exemples. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dépourvu de moyens réels d'exécution de ses éventuelles décisions, et qui n'est plus vraiment représentatif du monde, se révèle souvent impuissant, avec ses 5 membres permanents dont le vote aboutit à bloquer toute décision récusée par l'un d'eux et toute réforme d'ensemble pourtant indispensable. D'autres groupements, G7, G20, BRICS, font écho à ces divisions, ils remplissent certains rôles, mais ne permettent pas d'assurer paix et sécurité. En l'absence d'un gouvernement mondial, imaginé avec optimisme par certains, mais qui ne semble guère se profiler, une large réforme s'impose, à commencer par celle de la gouvernance de l'ONU, dont la composition du Conseil de sécurité devrait être élargie et rendue plus efficace. Depuis longtemps, la diplomatie française tient en portefeuille une proposition de réforme. D'autres existent qui n'ont pas davantage abouti, dès lors qu'elles reviendraient, je vais à l'essentiel, les unes et les autres, à remettre en cause le privilège historique des 5. La nécessité est donc là, incontestable, mais jusqu'ici inapplicable. Pour entrer avec davantage de précision dans les mécanismes internationaux de gouvernance à l'œuvre, je vais prendre l'exemple de la lutte contre le dérèglement climatique et d'un des rares succès dans ce domaine, la COP21 de décembre 2015, conclue par l'accord de Paris que j'ai eu le privilège de préparer et de présider. Lorsqu'elles ont été bâties, nos institutions internationales n'ont pas pris en compte ce problème essentiel qui, à l'époque, soyons objectifs, n'était guère perçu. La vérité scientifique du dérèglement climatique, j'emploie ce terme car il ne s'agit pas seulement d'un réchauffement, a peu à peu conduit à ce constat, sans un ensemble d'actions internationales puissantes, convergentes, urgentes, nous nous dirigeons, du fait des activités humaines émettrices de gaz à effet de serre, vers des conditions de vie difficiles, voire insupportables, pour des dizaines et des centaines de millions de personnes, vers la famine ou la submersion de territoires entiers et la disparition de millions d'espèces. D'où l'invention, sous l'égide de l'ONU, des fameuses COP, acronyme anglais pour Conference of Parties, avec des résultats inégaux. C'est la 21e COP, celle de Paris, qui a marqué un tournant. Pourquoi ? Comment ? Son texte final, qui, je le concède, n'a pas l'élégance de Flaubert, comporte 29 articles et 140 paragraphes de décision acceptés par tous les États et ratifié par la quasi-totalité d'entre eux. Il est le premier à fixer des objectifs précis et ambitieux à la lutte contre le dérèglement climatique. Par rapport à la fin du XIXe siècle, il affiche une augmentation maximum de la température moyenne de 2 degrés lors de la seconde moitié du siècle et, si possible, 1,5 degré. Il comprend la fixation périodique par chaque pays d'un maximum d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'engagement de dispositions financières favorables des pays riches envers les plus pauvres. Il insiste sur le double mouvement indispensable de réduction des émissions fossiles et d'adaptation aux conséquences négatives de ces émissions, ce qu'on appelle atténuation et adaptation. Malgré certaines limites, il a constitué une avancée considérable en ceci qu'il a fixé le cap et les moyens. Il est devenu, de fait, la référence universelle. Ce résultat s'explique principalement, j'en reviens à la gouvernance, par l'alignement obtenu, il y a donc 8 ans à Paris, de 3 planètes, celle des scientifiques, celle des sociétés civiles et celle des gouvernements. L'art de la négociation a consisté à favoriser l'alignement de ces planètes. Car, mesdames et messieurs, la capacité à mettre d'accord tous les pays du monde, puisque ces COP impliquent l'accord de tous, ne dépend ni d'un seul pays, ni de deux, quelle que soit leur puissance. La situation internationale générale, les relations intergouvernementales au moment où se négocie l'accord sont déterminantes. De même, la capacité à définir les enjeux principaux, à dépasser les tropismes nationaux, l'habileté et la créativité pour résoudre les désaccords, sans céder pour autant à la tentation toujours très forte d'un accord minimum, l'aptitude à établir la confiance dans la façon dont les discussions sont menées, la conviction installée chez tous les États qu'un échec leur coûterait finalement plus qu'un accord, même si celui-ci ne permet pas à chacun d'obtenir le maximum, ces éléments qui composent ce qu'on appelle la diplomatie ont aussi leur part. Ce fut le cas pour la COP21. Je souligne en passant qu'il me paraît illusoire d'espérer mener une diplomatie efficace sans de bons diplomates professionnels. Pour y parvenir, il a fallu, cela fait partie intégrante de la gouvernance, combiner une vision et une méthode. Définir 2 années à l'avance les objectifs et les équipes. Charger chacun de nos ambassadeurs d'une mission d'écoute, de proposition et d'évaluation. Multiplier ad nauseam les concertations internationales afin que chaque État, même le plus petit, soit pris en compte. Prévoir un effort particulier envers les dirigeants particulièrement décisifs, qu'ils soient favorables ou hostiles. Bref, utiliser tous les canaux dont peut disposer une puissance à la fois mondiale et moyenne comme la France pour écouter, convaincre et rassembler plutôt que prononcer des diktats illusoires. 2 années donc de marathon, ou plutôt de sprint diplomatique, pour parvenir à l'entrée de cette fameuse COP de Paris, à une situation où, malgré tous les efforts, subsistaient encore 1600 passages entre crochets pour cause de désaccords qu'il fallait réduire en 2 semaines, jour et nuit, de négociations ultimes à 0. Là aussi, une des leçons de gouvernance est que si, bien sûr, dans une large mesure, les États sont des monstres froids, et si leurs positions répondent à des données objectives dans lesquelles la sensibilité joue assez peu, les facteurs humains, les éléments personnels, la dynamique des discussions, qui nécessitent souvent le secret mis à mal par l'hyper-tyrannie contemporaine de la transparence, tout cela remplit un rôle important. Ainsi, pour le choix capital du chiffre de 1,5 degré, établi par la communauté scientifique comme le maximum souhaitable d'augmentation moyenne des températures, des oppositions catégoriques existaient au début de la conférence. Ce sont quelques interventions fortes, notamment celle que je garde en mémoire d'un représentant des petites îles, plaidant avec passion en réunion plénière que le réchauffement climatique n'était pas pour son territoire un choix de confort, mais la condition même de sa survie. Ce sont de telles interventions qui ont créé une dynamique et rendu difficile le maintien par plusieurs États puissants de leur refus initial. Difficile, puis quasi impossible, à mesure du déroulement et de la progression des négociations, jusqu'à l'arbitrage final, la dernière nuit, en faveur du 1,5 degré, que, comme président de la COP, j'ai eu à opérer. Oui, l'humain compte aussi dans la gouvernance, mais seulement si on l'appuie sur une préparation millimétrée, un cap clair et une mise en œuvre déterminée. Comment se fait-il alors qu'un tel accord, définissant avec l'approbation de tous les objectifs et les moyens, et qui a eu des effets positifs, notamment sur la courbe tendancielle du réchauffement, n'est cependant pas permis de résoudre la question climatique. Et que, malgré la conscience croissante de la gravité du dérèglement, ce qu'on appelle un peu vite la communauté internationale ait jusqu'ici échoué à régler effectivement ce problème existentiel. J'en reviens à mes 3 planètes. La première, la planète scientifique, n'a jamais cessé depuis la COP de Paris, d'être au rendez-vous. En particulier, les travaux fameux du GIEC et ceux de l'Agence internationale de l'énergie y ont joué et jouent un rôle remarquable. La réalité du phénomène, ses causes, ses conséquences, les modalités d'action nécessaires sont désormais scientifiquement établies et les technologies, en particulier celles des énergies propres et des économies d'énergie, ont beaucoup progressé tout en devenant moins onéreuses. Ces innovations constituent une vraie source d'espoir. Et pourtant, les émissions de CO2 et de CH4, c'est-à-dire le dioxyde de carbone et le méthane, demeurent bien trop élevées. La part des énergies carbonées reste prépondérante. Cependant, que des centaines de millions de personnes continuent d'ignorer ces données scientifiques ou les contestent. C'est d'ailleurs loin d'être le seul sujet de contestation de la science, car notre époque, vous en êtes les premiers témoins, glorifie à l'envi les vérités alternatives. Les réseaux sociaux y contribuent et les intérêts puissants alimentent souvent ces contre-vérités. C'est le principe dit « principe de Brandolini », formulé en 2013 et que j'appellerai plus simplement « principe d'asymétrie des sottises ». En clair, il faut beaucoup, beaucoup plus de temps pour réfuter des sottises que pour les produire. Ce principe s'applique avec force aux questions climatiques, comme l'ont montré avec une malencontreuse efficacité deux ex-présidents de grands États, les États-Unis d'Amérique et le Brésil. Au sein, cette fois, de la planète société civile, les retards à l'application de l'accord de Paris, voire les blocages, sont dus essentiellement à deux causes. Les unes tiennent à l'ampleur et à la complexité objective des changements nécessaires. Il ne s'agit en effet de rien de moins que de changer de mode de développement. Beaucoup, à travers le monde, l'ont intégré, qu'il s'agisse d'individus, d'organisations, d'entreprises, de collectivités, et agissent en conséquence. Au lieu d'une économie et même d'une société fondée sur l'utilisation illimitée des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, le nouveau modèle de développement au XXIe siècle devra être sobre, respectueux de la nature et fondé essentiellement sur des énergies dites nouvelles, solaire, éolien, hydroélectricité, géothermie, nucléaire, etc. Les technologies concernées devront être améliorées et leurs coûts réduits. Les financements publics et privés consacrés à ces transformations fortement accrus. Les subventions aux énergies fossiles diminuées puis supprimées et des mécanismes de taxation du carbone être établis qui égalisent les conditions de concurrence tout en permettant aux pays vulnérables de se développer. Tout cela en réalisant une transition à la fois rapide et socialement acceptable, en associant les populations qui doivent être mieux informées des enjeux et des réponses. L'expression « défi du siècle » n'est donc pour une fois pas exagérée. Ces difficultés intrinsèques sont encore plus vives lorsque la méthode de gouvernance est contestable, comme ce fut le cas lors de la crise dite des Gilets jaunes. D'où l'utilité d'une planification écologique qui se met en place au niveau national, mais absolument pas au niveau mondial. Ne soyons pas naïfs, certains freins aux mesures pro-climat proviennent aussi directement d'intérêts économiques et financiers menacés par la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, charbon, pétrole et gaz. Entendant ce propos, mesdames et messieurs, n'ayez pas le sentiment que vous avez devant vous un irresponsable dangereux, d'autant plus redoutable qu'il aurait jusqu'ici été dissimulé. Telle n'est ni ma réputation ni mon inclination. Simplement, l'observation des faits conduit à ce constat. À l'inverse de la plupart des entreprises qui jouent pleinement le jeu, les décisions prises jusqu'ici dans le monde par plusieurs grands groupes publics ou privés du secteur des énergies fossiles, ainsi que par des entités qui les financent, freinent ou même contredisent les exigences de l'accord de Paris et les vérités scientifiques établies. On se situe là, au cœur même de l'interrogation cruciale, comment la gouvernance nationale et internationale peut-elle faire prévaloir l'intérêt général sur la défense de certains intérêts puissants, mais particuliers. C'est là qu'on retrouve la troisième planète, celle des gouvernements. Là aussi, où il y a lieu sans doute d'être les plus sévères. Fin juillet de cette année 2023, quand il s'avérait que nous vivions le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire humaine, annonçant l'année la plus chaude jamais connue, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, homme pondéré et informé, déclarait, je le cite, « Le changement du climat est là. C'est terrifiant et c'est juste le commencement. Plus d'excuses, plus d'attentes que d'autres agissent d'abord. Les dirigeants doivent diriger. L'accélération des températures exige l'accélération de l'action. » Fin de citation. Et Guterres d'accompagner ce diagnostic par la liste précise des actions urgentes indispensables de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation des énergies renouvelables, ainsi que d'adaptation et de financement. À peine quelques jours plus tard, les ministres de l'Environnement des pays du G20, qui représentent plus de 80% des émissions fossiles, se réunissaient pour s'accorder sur les mesures à prendre et préparer la COP28 de cette fin de semaine, dont j'espère qu'elle apportera des avancées importantes et suivies d'effets. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le G20 qui échoua. On dira, c'est la faute de telle ou telle autocratie, grande émettrice et amatrice de CO2. Pas seulement. Au même moment, le Premier ministre du Royaume-Uni, démocratie jusque-là exemplaire dans son action climatique, annonçait, à quelques mois d'élections difficiles, qu'il avait décidé d'accorder plus de 100 nouvelles licences d'exploration et d'exploitation de gaz et de pétrole en mer du Nord, CQFD. Pourquoi cette gouvernance inadaptée, diront certains, aveugle, rectifieront les autres ? Une explication complémentaire vient de ce qu'on a appelé à juste titre la tragédie des horizons. Dans le cas du climat, les décisions indispensables sont désormais identifiées et elles sont urgentes. Si on a pu organiser une gouvernance globale de l'aviation civile, c'est que sinon, les avions cesseraient immédiatement de pouvoir circuler ou atterrir. Il en va autrement avec l'environnement. L'horizon évoqué est généralement 2030, 2050, 2060, 2100. Et les dirigeants actuels, dans l'ensemble, ne seront plus là. Les mots de Churchill viennent à l'esprit. Je le cite. Le politicien devient un homme d'État quand il commence à penser à la prochaine génération plutôt qu'à la prochaine élection. Fin de citation. Beaucoup tendent à différer les décisions, à minimiser les intérêts des générations futures et les équilibres de la nature, à privilégier la dimension nationale sur la coopération internationale indispensable. Et ces choix ou ces non-choix de gouvernance ne connaissent généralement pas d'autres sanctions que la survenance de catastrophes ou le jugement, par définition, tardif de l'histoire. Cette histoire dont votre regretté confrère, le roi Ladurie, fut un des tout premiers à montrer magistralement ses rapports profonds avec le climat. Monsieur le chancelier, messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs, monsieur le président, comment conclure ces quelques remarques sur la gouvernance ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos sociétés ont plus ou moins explicitement vécu sur la base d'un triangle de force, la paix, la démocratie, le marché. La paix est désormais attaquée, y compris en Europe. La démocratie ne remplit pas toujours les attentes des citoyens. Le marché doit être régulé pour être efficace, et beaucoup de régulations manquent. Pas étonnant dans ces conditions que le modèle traditionnel de gouvernance trébuche au profit souvent de l'international des autocraties et de leur propagande. Il faut essayer de dessiner une nouvelle grille d'analyse et d'action au plan national comme international. En France, un président qui préside, un gouvernement qui gouverne, un Parlement qui légifère et qui contrôle. Cette tautologie sémantique n'a rien d'une évidence politique et pourrait même constituer, avec une participation plus forte des citoyens, la ligne directrice à partir de laquelle améliorer notre gouvernance. Au plan mondial, la plupart des grandes questions posées aux dirigeants présente désormais trois caractéristiques communes. Elles sont interdisciplinaires, intergénérationnelles et internationales. Qu'il s'agisse du dérèglement climatique, des questions éthiques, techno-éthiques et bioéthiques, de la protection des libertés et des sécurités, de la lutte contre les drogues, des inégalités de finances et de développement, de la démographie et des migrations, on ne peut mettre en œuvre beaucoup des solutions et des modes de gouvernance nécessaires que si on refuse à la fois le sectarisme intellectuel, le nationalisme politique et la myopie générationnelle. C'est à cette aune, me semble-t-il, qu'il faut juger la pertinence des évolutions de gouvernance possibles. Quelques mois avant d'être assassiné, on rapporte que Martin Luther King, à un interlocuteur qui l'interrogeait sur ce qui définirait le mieux le siècle suivant, le nôtre, répondait ces mots : les fusées seront téléguidées et les hommes désorientés. Nous en sommes là. La marge de progression de la gouvernance est donc vaste. Merci.
Monsieur le Président, aux applaudissements nourris et qui eussent continué si nous n'aviez pas fait signe de les arrêter à un moment, vous mesurez le remarquable exposé que vous venez de faire qui, je dois dire, dépasse nos espérances. Je parle au nom du bureau et sûrement au nom de nos confrères.